Merci de rester fidèle au programme du studio à Kalangou. Il est 18h, c'est l'heure de votre journal en français avec Aruka et Abdraman. Au sommaire de cette édition, le verdict est tombé ce matin au tribunal de Niamey. Les acteurs de la société civile poursuivis pour avoir organisé et participé à une manifestation interdite le 25 mars dernier dans le cadre de la lutte contre certaines dispositions de la loi de finances 2018 écopent de 3 mois de prison avec sursis. Sortie médiatique cet après-midi du Haut-Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah relative à la fin des préparatifs du Hajj 2018. Détails sur les 3 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour dans ce journal. Vous ferez la découverte dans la partie magazine de ce soir d'un jeune ingénieur nigérien créateur d'un nouvel indicateur qui permettrait aux pays du G5 à Sahel d'atteindre leurs objectifs de développement et de sécurité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous, Arzika Ali Idrissa, Moussa Tchangari et Maître Lirwana Abdourahmane écopent de 3 mois de prison avec sursis pour attroupement non armé. 2 manifestants sont libres pour insuffisance de preuves et les autres ont écopé d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis. C'est le verdict rendu ce matin par le tribunal de Niamey. Des acteurs de la société civile poursuivis pour avoir organisé et participé à une manifestation interdite le 25 mars à Niamey dans le cadre de la lutte contre certaines dispositions de la loi des finances 2018. Ils sont aux arrêts depuis le 25 mars dans les différentes prisons de la région de Tillabéri. Écoutons la réaction de Maître Boudal et Fred, l'un des avocats au micro de Habibou Garba.
Aujourd'hui, le tribunal nous a suivis sur 2 chefs de prévention. Le tribunal a estimé que, en droit, on ne peut condamner M. Nour Arzika et autres d'organisation d'une manifestation interdite parce qu'elle n'a pas été interdite dans les conditions fixées par la loi, notamment les dispositions de l'article 6 et 5 de la loi 2004, les manifestations sur la voie publique. Deuxième élément, le juge nous a suivis sur le fait qu'il n'y a pas de complicité de dégradation des biens publics. C'est pourquoi, pour ces 2 chefs de prévention, nous avons eu la même grille de lecture que le juge et les a relaxé purement et simplement de ces 2 chefs de prévention. Par contre, le juge a estimé qu'il y avait eu provocation d'un attroupement non armé par des écrits et des affiches et les points gagnés pour l'état de droit. Maintenant, le juge les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement assortis de ceci, ce qui veut dire qu'ils ne devraient même pas être gardés, même un jour en prison. La conséquence, c'est qu'ils sortent aujourd'hui même, tous libres, ni têté les facteurs distance qui peuvent causer des difficultés.
Alors que le verdict du procès des défenseurs des droits humains au Niger vient de tomber ce matin, 9 organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, Tournons la page et Frontline Defender, ont dans un communiqué publié vendredi dernier demandé aux autorités nigériennes de mettre un terme aux poursuites engagées contre les acteurs de la société civile incarcérée. Selon ces organisations, la répression des voix dissidentes, l'interdiction des manifestations pacifiques et l'arrestation d'activistes sont autant de violations qui doivent cesser au Niger. Point de presse cet après-midi du Haut Commissariat pour l'organisation du Hajj à Koho. Cette sortie médiatique est relative à la fin des préparatifs du Hajj 2018. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la mise en place de l'équipe d'encadrement, le dépôt des passeports à temps et le paiement des frais de transport. Le commissaire du Koho a profité pour interpeller les candidats et les agences sur certains points. Jibril Aboukari, commissaire du Koho, au micro de Diallo Mariama Kenda.
Pour ce qui est de visa, nous avons déjà constaté le début des opérations visa. Ils disent qu'ils sont prêts à délivrer minimum 1000 visas par jour. Nous avons constaté une lenteur dans la libération des frais de transport. Et si jusqu'à aujourd'hui, sur le presque 10 000 pèlerins en charter dont nous n'avons pas encore ces 6 000 pèlerins qui ont payé la totalité des frais de transport, ça veut dire qu'il y a un problème. Le Hajj va avoir lieu à partir du 1er août pour le premier vol. vol avec la seule compagnie que nous avons pour le transport de pèlerins, c'est la compagnie de Nigeria Rose. Il n'y a pas une deuxième compagnie pour le charter. Les chefs de groupe d'agence, qu'ils sachent que le vol régulier, ce n'est pas une obligation pour le Coho ou pour les autorités saoudiennes. C'est des faveurs que les autorités ont accepté de faire à certaines agences. Mais les quotas destinés au pays, c'est des quotas destinés au monde musulman. Pour 1 million de population, on donne un quota de 1 000 personnes.
Les programmes de la radio et télévision Niger 24 sont suspendus depuis ce matin pour non-paiement d'impôts. Ceux de Bonferay et Canal 3 restent également toujours suspendus, ce qui porte à 3 le nombre de groupes de radio et télévision fermés de la semaine dernière à aujourd'hui pour les mêmes motifs. Cette série de fermetures fait suite à un redressement fiscal sur une période de 4 ans opéré par la direction des petites et moyennes entreprises à l'encontre des médias. Le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, Synatic, réagit par rapport à la fermeture de certains médias à Niamey pour non-paiement d'impôts. C'est dans une déclaration rendue publique hier après-midi. Moudi Moussa, secrétaire général du Synatic, au micro de Moutari Mohamed.
Le Ben Synatic constate avec regret l'attitude désinvolte et révoltante du pouvoir en place à vouloir coûte que coûte réduire au silence la presse indépendante, notamment en utilisant les services des impôts pour procéder de manière honteuse à la fermeture sans sommation des entreprises de presse sous le fallacieux prétexte de non-paiement d'impôts. Alors même que des cadeaux fiscaux de l'ordre de plusieurs milliards sont accordés sans vergogne à des multinationales. Rappelle que seul le CSC, régulièrement reconnu comme organe régulateur, peut prendre sur lui la responsabilité historique de décider de la fermeture d'un média et dénonce de ce fait le silence complice de celui-ci dans la traque en cours visant les médias indépendants. Constate avec surprise la renonciation par l'État d'octroyer depuis 3 ans le fonds d'aide à la presse, pourtant perçu comme la seule subvention allouée aux organes de presse indépendants reconnus pour leur vulnérabilité.
Une quinzaine de journalistes des médias privés et publics de la presse écrite et audiovisuelle en formation depuis hier 23 juillet à Tawa. Avec pour thème « Mariage des enfants au Niger », cet atelier vise à alimenter le dialogue et les conversations autour de la problématique du mariage des enfants et ce à travers les médias. Une initiative du ministère de la Communication avec l'appui de l'UNICEF. Lalaina Fatratra, chef de la communication de l'UNICEF, estime que le phénomène reste répandu au Niger car 3 filles sur 4 se marient avant leur 18e anniversaire.
Des milliers d'enfants au Niger sont privés de leur enfance. Mettre fin au mariage des enfants peut préserver l'enfance d'une fille, promouvoir son droit à l'éducation, réduire son exposition à la violence et aux abus et contribuer à briser les cycles de la pauvreté qui se transmettent d'une génération à l'autre. S'attaquer au mariage des enfants exige cependant la reconnaissance des divers facteurs qui contribuent à la perpétuation de cette pratique. Ces facteurs comprennent des facteurs économiques, des facteurs structurels, des facteurs sociaux ou culturels. Pour s'attaquer à ces facteurs, les médias peuvent jouer un rôle de premier plan. Vous avez une influence considérable dans nos sociétés. Vous avez le pouvoir de façonner les valeurs des individus, leur manière de se percevoir, de percevoir les autres et le monde dans lequel ils vivent. Les médias ont un impact significatif sur leur public et ont le pouvoir d'engager et d'alimenter le dialogue et les conversations autour des droits de l'enfant.
Propos recueillis par Adama Dawaki. Dans un rapport lancé mercredi dernier à Paris, en France, lors d'un événement co-organisé par la coalition, avec la coalition Plus ONU SIDA, estime que la riposte mondiale au VIH se trouve dans une situation préoccupante car les nouvelles infections à VIH augmentent dans environ 50 pays. Les décès liés au SIDA ne diminuent pas assez. Assoumana China.
Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, affirme que des régions entières prennent du retard. Les grands progrès que nous avons réalisés concernant les enfants ne sont pas pérennes. Les femmes restent les plus touchées. Les ressources ne sont toujours pas à la hauteur des engagements politiques et les populations clés continuent d'être laissées pour compte, précise le communiqué de presse de l'ONU SIDA. Le rapport estime que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont à la traîne. En 2017, seulement 26% des enfants et 41% des adultes ont eu accès au traitement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, contre 59% des enfants et 66% des adultes en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Depuis 2010, le nombre de décès liés au sida a diminué de 24% en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, contre 42% en Afrique de l'Est et australe.
Dans le cadre de l'embellissement de la ville de Niamey, le Haut Commissariat à Niamey-Niala a mis en place récemment l'application Iniala, accompagnée d'une ligne verte à partir duquel les populations peuvent appeler pour signaler tout acte d'incivisme. Tidiane Ibrahim nous fait le point depuis l'installation de ce système. Il est au micro de Diallo Mereye Makenda.
L'application Iniala, c'est une application qui a été créée par Niamey-Niala et qui consiste à dénoncer certaines mauvaises pratiques dans la ville de Niamey. Par exemple, si quelqu'un déverse des ordures dans des caniveaux, ou bien vous voyez un poteau électrique cogné par un véhicule, il y a des gens qui déversent des ordures dans le caniveau, ou bien sur le goudron, ou bien vous voyez des animaux errent dans la ville de Niamey. Vous pouvez appeler ce numéro vert. Automatiquement, il y a une équipe qui va intervenir sur le lieu. Le numéro, c'est 4334, qui est là, qui est destiné à la population de la ville de Niamey. Le numéro vert fonctionne de 6h du matin à 23h ou minuit. Depuis que le numéro a été attribué, on a beaucoup de plaintes. Chaque jour, on a des appels. Moyennement, on peut avoir une dizaine d'appels par jour, des déclarations de la population de la ville de Niamey qui nous appelle par rapport à un acte d'incivisme. Et sur place, les équipes allons sur le terrain pour voir de vigie et prendre les dispositions.
Du sport dans ce journal, le tirage au sort pour la qualification à la CAN U17 Tanzanie 2019 zone IFOA B a eu lieu hier à Niamey. Ce tournoi de qualification qui regroupe 7 nations ouest africaines de football se déroulera du 2 au 15 septembre 2018 dans la capitale nigérienne. Écoutons la réaction de Aka Malin, le secrétaire de l'IFOA, après le tirage au sort.
Les deux poules sont équilibrées. Vous avez dans chaque groupe des équipes qui ont participé à plusieurs Coupes du Monde et des Coupes d'Afrique. Ghana dans la poule du Niger, pas de mince affaire. Et l'autre côté, vous avez la Côte d'Ivoire dans la poule du Niger. Donc, c'est deux poules équilibrées qui nous promettent des compétitions de haut niveau. Après la phase de groupe, où chaque groupe il va avoir des matchs pour déterminer les vainqueurs. Après la phase de groupe, il y aura les deux meilleurs de poules A, les deux meilleurs de poules B vont se rencontrer en croisé en demi-finale. Et les vainqueurs des demi-finales joueront la finale. Et puis finalement, c'est le vainqueur du tournoi, c'est-à-dire le vainqueur de la finale, qui en plus de la coupe qu'on va lui remettre et des médailles, va représenter notre zone en Tanzanie en 2019.
La partie magazine de cette édition, dans le but d'apporter une contribution pour l'atteinte des objectifs des pays du G5 Sahel dans le développement et la sécurité, un jeune ingénieur et statisticien a créé un nouvel indicateur. Kabirou Boubacar Issa Baba, ingénieur et statisticien économiste à l'Institut national de la statistique, explique au micro de Raïla Toussoumana.
Le premier scénario tient compte de 8 variables, l'indice du développement humain, l'indice du Young Business, qui mesure la facilité des affaires dans les économies, l'indice Mo Ibrahim qui mesure la bonne gouvernance, le taux de couverture en dollars, les dépenses militaires en pourcentage du PIB, les dépenses de santé par habitant, le nombre de médecins par habitant, les dépenses publiques en pourcentage du PIB. Au premier scénario, le Niger est classé deuxième après le Mali et le Burkina Faso qui est en troisième position. Maintenant, au second scénario, j'ai encore plus donné de l'importance à la sécurité. J'ai ajouté l'indice Gallup de sécurité. C'est un indice qui a été mis en place par une institution américaine qui siège à Washington. Lors de sa dernière publication, elle classe le Niger 7e pays africain en termes de sécurité des personnes. Le Mali est le 8e pays. Nous avons le Burkina qui est en 15e position, le Tchad en 29e position et la Mauritanie en 33e position. Donc au niveau de ce scénario, j'ai retiré le nombre de médecins par habitant, le taux de couverture et j'ai ajouté cette variable. Et quand j'ai fait la même simulation, il ressort que c'est le Niger qui est en première position. La valeur de l'indicateur est de 0,359.
Comment est-ce que vous pouvez expliquer que le Niger soit premier dans vos simulations alors qu'il y a toujours des attaques qui sont perpétrées et au Niger et au Mali?
C'est-à-dire que ce que les gens devront comprendre, il faut faire une nuance entre la sécurité et les attaques et les défenses militaires. Ce n'est pas seulement sur le plan militaire qu'il faut regarder la sécurité. Aussi au Niger, chez nous ici, Dieu merci, aucun groupe terroriste n'a pu implanter son drapeau. Ils font les attaques et ils fuient. Si le pays a atteint la valeur 1, cela veut dire que le pays a atteint le niveau maximum de sécurité et de développement. Le pays qui a 0, c'est-à-dire que dans ce pays, il n'y a ni la sécurité ni le développement. Et globalement, la zone du 5 Sahel a un indice de 0,328. alors que dans le premier scénario, c'est 0,255. Ce qui prouve une insuffisance du développement couplé à la sécurité de la zone du G5 Sahel.
Ici s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.